Contamination par le VHCVHBHTLV. Cadre juridique. Ce que dit la loi. Article L1221-14 CSP. Les victimes de préjudice résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T lymphotropique humain causé par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisé sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L3122-1, au deuxième et troisième alinéa de l'article L3122-2, au premier alinéa de l'article L3122-3 et à l'article L3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'Office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi numéro 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées au 2e, 3e et 5e alinéa de l'article L1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'Office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de 6 mois à compter du jour où l'Office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'Office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, aux responsables des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'Office et l'établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'Office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi numéro 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme. De l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000, numéro 2000-1353 du 30 décembre 2000, et de l'article 14 de l'ordonnance numéro 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'Office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa. Si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Nota. Loi numéro 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 72.3, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de choses jugées. LOI numéro 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, article 67.4 modifié. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'établissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'Office. Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente. Lorsque l'Office a indemnisé une victime, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi numéro 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000, numéro 2000-1353 du 30 décembre 2000. Et de l'article 14 de l'ordonnance numéro 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas rassuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. 6. Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article 1142-23 du Code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros. Nota. Loi numéro 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 72-3. Ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de choses jugées. LOI numéro 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé article 102. En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Décret numéro 2010-251 du 11 mars 2010. Article 8. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du Conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010. L'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au Conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été publié au Journal officiel du 18 mars 2010. Les dispositions du nouveau régime d'indemnisation sont donc entrées en vigueur le 1er juin 2010. Article R1221-69 CSP. I. Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article 1142-22. Ces demandes d'indemnisation comportent, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1221-14. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l'Office tous les éléments d'information dont ils disposent. Les demandes sont adressées à l'Office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Office accuse réception de la demande. Le cas échéant, il demande les pièces manquantes. Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 2. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'Office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical. Article R1221-70 CSP. Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-14. Article R. 1221-71 CSP. Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise. Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnés à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi numéro 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes. L'office informe alors le demandeur, 15 jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée. L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de 15 jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations. Dans les 3 mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur. L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de 15 jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations. Article R. 1221-72 CSP. L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au 6e alinéa de l'article L. 1221-14 et à l'article L. 3122-4. Article R. 1221-73 CSP. L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de 6 mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées. Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet. Article R. 1221-74 CSP. En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au 3e alinéa de l'article L. 1221-14. Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite. Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante. Article R. 1221-75 CSP. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des actions mentionnées au 4e alinéa de l'article L. 1221-14 est déterminé conformément à l'article R. 312-14-1 du Code de justice administrative. Article R. 1221-76 CSP. L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 1221-14 contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, intervenir même pour la première fois devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Article R. 1221-77 CSP. Les greffes et secrétariats greffes des juridictions des ordres administratifs et judiciaires adressent à l'office, par tout moyen de nature à établir la date certaine de sa réception, copie des actes de procédure saisissant celle-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 1221-14. Article R. 1221-78 CSP. L'indemnisation des chefs de préjudice retenus en application du présent chapitre prend en compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordés antérieurement en application des articles L. 1142-15 alitre, L. 1142-21 et L. 3122-1 alitre. 3122-6. Article des 1142-59-1 CSP. L'établissement français du sang mentionné à l'article L. 1221-1 inscrit annuellement dans son état prévisionnel des recettes et des dépenses la dotation mentionnée au 7 degré de l'article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'établissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 pour l'année suivante. Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative. Cette dotation est destinée à couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14. Elle comprend, d'une part, le montant des indemnisations des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, des frais d'expertise liés à ces indemnisations et de tout frais liés aux contentieux résultant de contamination par le virus de l'hépatite C causé par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang mis à la charge de l'Office par l'article 67 de la loi numéro 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009 et, d'autre part, le montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement directement liées à la gestion du dispositif. La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire supporter par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14. Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à l'approbation de leur conseil d'administration précise les échéances de remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des informations communiquées par l'Office à l'établissement permettant à ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque transfusionnel. Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements. Article des 1142-59-2 CSP. L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'Office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle des autres activités de l'Office. Décret numéro 2010-251 du 11 mars 2010, article 7. Les dispositions du présent décret relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de contamination par le virus de l'hépatite C causé par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont applicables quelle que soit la date de réalisation de la transfusion ou de l'injection. Elles sont applicables aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Décret numéro 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contamination par le virus de l'hépatite C causé par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, article 2. Pour l'année 2009, l'établissement français du sang verse à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les montants correspondants aux dépenses mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 1142-59-1 du Code de la santé publique engagé par ce dernier. Pour l'année 2010, le montant de la dotation mentionnée à l'article D. 1142-59-1 du Code de la santé publique est arrêté par décision budgétaire modificative de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement français du sang adopté lors de la séance la plus proche du conseil d'administration de l'établissement, après la publication du présent décret. Il est déterminé à partir des prévisions de dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique établi par l'Office. Décret numéro 2010-251 du 11 mars 2010, article 8. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres du Conseil d'orientation et au plus tard avant le 1er juillet 2010. L'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au Conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été publié au journal officiel du 18 mars 2010. Les dispositions du nouveau régime d'indemnisation sont donc entrées en vigueur le 1er juin 2010.